C'est l'un des plus grands salons au monde. Ces trois lettres font vibrer les passionnés de nouvelles technologies et les produits présentés ont forcément fait partie de nos vies un jour ou l'autre. Le CES, le Salon de l'électronique grand public, se tient une nouvelle fois à Las Vegas, aux États-Unis, avec au programme des centaines de nouveautés, des produits de tous les jours, en passant par des voitures futuristes, plus de 3000 exposants et 115 000 visiteurs l'année dernière. Je vais vous raconter l'histoire du CES, du tout premier dans le hall d'un hôtel new-yorkais, à celui de Las Vegas, dans le Nevada. Hi everyone, je suis très heureux de vous retrouver en cette nouvelle année. Merci d'ailleurs pour vos nombreux messages depuis que j'ai repris cette lettre d'Amérique. En cette année 2024, on va pas mal voyager ensemble. On ira bien entendu dans l'Iowa pour le fameux caucus des Républicains. Alors c'est un peu le vrai lancement de cette campagne jusqu'à l'élection du nouveau président des États-Unis. Ce sera, mettez-le d'ailleurs dans votre calendrier, le 5 novembre prochain, donc le 5 novembre 2024. Je suivrai bien entendu toutes les étapes et surtout les enjeux de cette élection. Ils se sont encore accélérés il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Et une élection qui promet déjà d'être extraordinaire, tellement l'Amérique est polarisée. Aujourd'hui avec vous, je ne suis pas très loin de Times Square à Manhattan et je vais vous parler du CES, le Consumer Electronics Show, le CES, qu'on pourrait traduire par en fait le salon de l'électronique grand public. C'est un événement international qui a lieu chaque année à Las Vegas, mais je ne suis pas dans le Nevada pour vous en parler, puisque je suis ici à Manhattan, car le CES n'a pas toujours eu lieu à Las Vegas comme aujourd'hui. À l'époque, le tout premier salon ne s'est pas déroulé dans un hangar ou dans un centre des congrès, mais plutôt dans deux halls d'hôtel. C'était juste à côté d'ici, notamment dans l'hôtel Americana, qui ne porte plus ce nom aujourd'hui, et dans un autre hôtel dont vous connaissez très probablement le nom, puisqu'il s'agit de l'hôtel Hilton. Alors il faut se remettre dans le contexte de l'époque. La radio existe depuis bien longtemps maintenant, et la nouveauté, eh bien, c'est bien souvent la télévision, et la télévision en couleur. Et c'est exactement ce qui est présenté dans ces hôtels new-yorkais aux visiteurs. Vous connaissez forcément ces télévisions, vous avez dû les voir un jour. Elles étaient parfois sur pied, très lourdes, et franchement, ça fait plutôt un beau cadeau pour un objet de collection aujourd'hui, pour les fans de télévision, voire de meubles, tout simplement, qui sont parfois vendus d'ailleurs très cher par des antiquaires. Il faut imaginer ces halls d'hôtels remplis de téléviseurs et d'électronique de l'époque. Le but, c'est de briller, de montrer, d'exposer, de faire essayer ces nouveautés pour qu'elles paraissent en fait irrésistibles. Le marketing, là, il est à son maximum, soyons très clairs. Un peu partout, le nom des marques est affiché. Les marques de l'époque, c'est Philips, Sharp, Sony ou encore Panasonic, qui font partie des exposants cette année-là. Et beaucoup d'ailleurs le sont encore aujourd'hui. Mais attention, tout le monde ne peut pas entrer dans ces halls. Le grand public n'est pas convié. Ici, on parle aux professionnels, aux représentants, on négocie entre membres du secteur et on passe des commandes. Cela n'a rien à voir avec le salon que l'on connaît aujourd'hui, et c'est donc une première qui va faire date en 1967. Car jusque-là, il n'y avait aucun salon qui regroupait les acheteurs et les vendeurs professionnels de matériel électronique à proprement parler. Le but est pourtant là, vendre au maximum toutes les nouveautés aux Américains. Et pour cela, eh bien, il faut le montrer, le partager à ceux qui les mettront en avant ensuite dans les magasins, dans leurs magasins, partout sur le territoire américain. Lors de cette première édition, eh bien, il y a plus de 17 000 personnes qui sont venues au CES. Il y avait environ 100 exposants. Le CES, il existe en fait grâce à un homme, il s'appelle Jack Wayman. Jack Wayman, c'était le président de la Consumer Electronics Association de 1962 à 1983. Et c'est lui qui a eu l'idée de créer ce salon. Jusque-là, un autre salon faisait foi, c'était le Chicago Music Show, un salon qui regroupait tous les professionnels de la musique. C'était beaucoup plus sectorisé, mais il a jugé qu'avec la multiplicité des produits de grande consommation, notamment dans ces années-là, eh bien un nouveau salon était nécessaire, ce qui a donc été fait. Alors, j'ai d'ailleurs retrouvé une interview de lui, réalisée il y a 10 ans maintenant. Il était encore dans le salon, enfin, son salon qu'il a créé, et questionné par la journaliste, il explique avec émotion les débuts à New York.
En 1967, la couleur a fait son apparition. Les Japonais ont fait leur invasion, ils ont eu besoin d'un cadre. Ils ont eu besoin de design. Nous avons lancé le salon à New York. Nous avions 100 exposants. Aujourd'hui, nous avons 3000 exposants parce que le salon a suivi l'évolution de l'industrie et de la technologie. Le salon est donc le reflet de l'évolution technologique du secteur. Bien sûr, le salon avait aussi pour mission de rassembler les personnes et les produits de l'industrie. Et cette mission est toujours vraie aujourd'hui. Ce n'est pas un salon public, mais c'est le plus grand salon au monde, bien sûr, pour la technologie.
Et il y en a eu du chemin parcouru en 1967. Il y avait un peu plus de 100 exposants et environ 17 000 visiteurs. En 2020, c'était 4 400 exposants pour 171 000 visiteurs. On peut clairement dire que le pari de Jack Wayman est désormais réussi. Par ailleurs, le salon est toujours organisé par la Consumer Technology Association aujourd'hui. À partir de 1978, ce salon a tellement de succès qu'il se scinde désormais en deux événements, dans deux villes différentes. Le salon quitte New York pour s'installer en janvier à Las Vegas et en juin à Chicago. Parlons désormais des produits qui y sont présentés, je dis bien présentés car les marques commencent à comprendre l'intérêt majeur de faire voir au plus grand nombre leurs nouveautés. C'est le cas de Sony en 1981, qui présente son CDP-101. C'est un lecteur de CD, un compact disque révolutionnaire pour l'époque. Ce lecteur, on pouvait se l'offrir pour environ 900 euros. C'est une somme évidemment extrêmement importante. Le CES, c'est aussi un salon pour les jeux vidéo. Et saviez-vous d'ailleurs que le plus célèbre des jeux dans le monde a été révélé ici ? C'était en 1988. Tetris, vous connaissez forcément ce petit jeu, initialement créé par un Russe en 1984. Ce n'est qu'en 1988 que Tetris va se répandre mondialement. Il a été commercialisé en tant qu'arcade, notamment chez Nintendo, ce qui a fait qu'il est devenu célèbre dans le monde entier. Et la première fois qu'il a été présenté, c'était donc au CES. Il y a quelques minutes, je vous parlais du lecteur de CD. En 1996, lors du CES d'hiver, c'est une petite révolution qui est en train de se jouer. Je dis petite révolution avec un objet qu'on utilise déjà plus en fait au quotidien aujourd'hui, c'est dire à quel point les objets électroniques se suivent et s'annulent en réalité. Et cette année-là, les fabricants présentent le DVD, le successeur de la bonne vieille VHS, juste avant les Blu-ray et le streaming d'aujourd'hui. Blu-ray d'ailleurs présenté aussi en 2003 dans ce même salon CES. Et là encore, ça m'a amusé de voir comment était présenté le DVD en 1996. Écoutez ce reportage de l'époque.
Les principaux fabricants d'électronique ont présenté la nouvelle technologie DVD, y compris Samsung, Pioneer et Toshiba. La bonne nouvelle est que pour une fois, tous les fabricants se sont mis d'accord sur une norme vidéo numérique. Lorsqu'un consommateur achètera un DVD-ROM, un lecteur de DVD, il n'y aura plus qu'une seule norme, un seul format qui régira tout. C'est la première fois que tous les acteurs de la communauté des logiciels, de l'informatique et de l'électronique grand public se réunissent et décide d'un format unique, d'une norme unique.
Les fabricants avaient donc eu la bonne idée de se mettre ensemble pour créer un standard pour que les consommateurs puissent mieux s'y retrouver. La suite du DVD, vous la connaissez puisque le DVD appartient désormais aux antiquités. Dans les années 2000, c'est l'avènement des keynotes, en français les présentations. Alors on connaît les plus célèbres, bien sûr, celle de Steve Jobs, le patron d'Apple, mais il y avait aussi celle de Bill Gates, présentant la toute première Xbox, une console de jeu produite par le géant de l'informatique Microsoft.
Voici la Xbox. Pour la première fois, je vous présente la Xbox. Comme je l'ai dit, la conception de cette console a été guidée par le temps passé avec les joueurs. Vous savez, en mettant le contrôle dans leurs mains. Nous avons essayé plus de 100 formes différentes pour trouver ce qui était le plus confortable et qui leur donnerait le meilleur jeu.
Plus de 20 millions d'Xbox ont été vendus par la suite, c'est dire à quel point le CES est un événement important pour Microsoft à l'époque. En 2011, c'est la téléphonie qui prend le pas sur toutes les annonces avec la révolution apportée par la 4G. On est aujourd'hui en 2024, la 4G c'était en 2011, voyez quand même le parcours qui a été fait. Samsung, Sony Ericsson, Motorola, ils sont nombreux à se positionner sur ce créneau. Au fur et à mesure des années, le champ s'élargit. On présente au CES des frigos connectés, des voitures futuristes, des concept cars plutôt, impressionnants. Certaines ne verront d'ailleurs jamais vraiment la route et resteront dans l'imaginaire collectif. Le but du CES est de faire rêver, de montrer à quoi peut ressembler demain dans notre quotidien. Alors cette année, à Las Vegas, c'est 130 000 participants qui sont attendus avec plus de 3 500 exposants dans le Las Vegas Convention Center West Hall. Et il n'y a déjà plus de place. Les journalistes du monde entier s'y donnent rendez-vous pour tenter d'esquisser ce que sera notre quotidien demain. Et ce nouveau sommet est sans surprise placé sous le signe de l'intelligence artificielle. Et que de chemin parcouru depuis les halls des hôtels Americana et Hilton ici à New York jusqu'à Las Vegas. Certains d'entre vous sont peut-être effrayés par ces avancées technologiques, d'autres fascinés. Voilà pour l'histoire du CES qui se cache derrière ce salon international. Vous allez évidemment voir pas mal de reportages, à la fois sur RTL, mais aussi sur M6 au CES à Las Vegas. J'espère comme moi que vous avez désormais un regard un peu différent sur cette grand-messe annuelle de l'électronique. Et comme je vous le disais au début de cette lettre, eh bien le tout premier salon a donc eu lieu dans l'hôtel Americana, ici à New York, qui a changé de nom depuis. Ça m'a rappelé cette chanson de Dalida, qui porte le même nom que cet hôtel des années 60. Voici donc Dalida avec Americana. Thank you and goodbye.
En silence, comme un goéland qui vient de France. Sur la ville qui sommeille, l'ombre d'une statue se réveille. Du ciel gris de l'Atlantique au soleil brûlant du Pacifique. C'est une île qui vagabonde. Centième étage, accroche son cœur dans les nuages. Quand San Francisco s'affole au rythme des amours qui s'envolent. On se saoule de musique sur des mots souvent mélancoliques. Las Vegas et ses machines et ses filles sorties des magazines.
Vous venez d'écouter Une lettre d'Amérique. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur RTL.fr, sur l'application RTL et sur vos plateformes d'écoute préférées.